Michael. Je ne vais pas le cacher, je suis privilégié de pouvoir être ici, debout, et de pouvoir tous vous voir en même temps. C'est beau, c'est émouvant, c'est une grande joie d'être comme ça tous rassemblés. Nous nous tournons ensemble pour ouvrir la parole de Dieu. Je vais demander à Monique de me rejoindre pour le début de cette prédication. Sandra a rappelé le mot d'ordre, le fil conducteur de ce temps de célébration sur le week-end. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Ce mot d'ordre, ce verset est issu du psaume 100. Pour fêter un anniversaire, j'avais envie de lire ce psaume dans sa version traditionnelle, la traduction Louis II, 1910. Elle va rappeler des souvenirs à beaucoup de monde qui ont découvert ce psaume dans cette version, et puis cette version reste une référence aujourd'hui. Et j'ai souhaité demander à Monique de lire ce psaume, Monique qui est aussi ma mère, et c'est elle qui m'a appris ce psaume dans cette version quand j'étais enfant. Mettons-nous à l'écoute de la parole de Dieu.
Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération.
Je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'explications autour de ce psaume pour le recevoir comme un psaume d'invitation à la louange. Nous sommes invités à largement à louer Dieu parce qu'il est bon. C'est une invitation aussi à le faire dans la joie. La joie est très présente dans ce psaume. Une invitation à venir le faire dans sa présence, à venir se rassembler. On parle d'entrer dans ses portes, dans ses parvis, mais dans cette alliance que nous avons par Jésus-Christ, il ne s'agit pas d'aller tous à Jérusalem au temple. Sa maison, c'est là où les chrétiens, ceux qui croient, se rassemblent. Et c'est ce que nous avons fait déjà. Sandra, avec les musiciens, nous a conduits dans un temps de louange et nous avons pu chanter ensemble que Dieu est bon. C'est une invitation faite pour tout le monde. Pour la terre entière. Mais j'aimerais avec vous gratter un peu ce texte. Je sais que certains se méfient de ces mouvements d'enthousiasme et de ce qu'on peut se laisser entraîner sans forcément adhérer à tout. Et moi-même, je ne suis pas toujours à l'aise avec ces mouvements d'enthousiasme qui nous prive de notre réflexion. Et en réfléchissant à ce texte, j'avais trois questions. Qu'est-ce que ça veut dire, Dieu est bon? Qu'est-ce que la bonté de Dieu? Est-ce que Dieu est bon parce que nous avons 40 ans aujourd'hui et que nous pouvons contempler que l'Église a grandi? Aurions-nous choisi ce texte au moment du départ d'un pasteur? Parfois dans un contexte pas très apaisé. Choisirions-nous ce texte s'il s'agissait de vendre notre bâtiment devenu trop grand pour une église qui aurait réduit, comme c'est le cas pour une église sœur en ce moment? Aurions-nous choisi ce texte s'il choisissait de fermer l'église? Est-ce que Dieu est bon parce que globalement tout va bien pour nous aujourd'hui? C'est ma première question. La deuxième, c'est pourquoi le louer? Pourquoi répondre à cette invitation? Et la troisième sera qui est concerné par l'appel? J'aimerais commencer par une histoire. Dans un pays lointain, vivait un vieil homme et son fils qui exploitaient seuls une petite ferme. Et ils n'avaient qu'un cheval pour les aider aux travaux des champs. Mais un matin, le fils court vers son père. « Papa, notre cheval s'est enfui cette nuit. Quelle malchance !» Mais le père répond « Je ne sais pas. Qui peut dire si c'est une chance ou une malchance ?» Deux jours plus tard, le cheval revient, accompagné de deux juments sauvages. « Oh, quelle chance! Ils vont nous faire des poulains !»« répond le père, « chance ou malchance, qui peut le dire ?» Et le lendemain, en essayant de dresser les juments sauvages, le fils tombe et se casse la jambe. Oh, « quel malheur! Te voilà seul maintenant pour travailler à la ferme !»« Oui, mais qui sait si c'est une chance ou une malchance ?» Quelques jours passent comme ça, et un agent du recrutement de l'armée arrive. Tous les jeunes de la région doivent le suivre pour partir à la guerre. Mais voyant le fils avec sa jambe cassée, il déclare « Dans cet état, il n'est plus bon à rien. L'armée n'a que faire des éclopés. » Et le fils du vieux fermier fut seul à rester chez lui, tandis que les autres jeunes partaient au combat. Chance ou malchance, qui peut dire ? Comment peut-on dire que Dieu est bon? Mes amis, je crois que ce n'est pas à nous de juger si Dieu est bon. Dieu n'est pas bon parce que des choses bonnes nous arrivent. Dieu est bon. Point. La Bible parle de ce que Dieu donne. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il donne des choses très différentes. Il y a des choses qui sont agréables et des choses qui le sont beaucoup moins. Dans la Bible, il y a un personnage, Job, qui avait tout, qui était aimé de Dieu et à qui il est arrivé une collection de malheurs impressionnante. Et quand sa femme l'interroge sur la façon dont il reçoit la bonté de Dieu, il lui répond « Nous acceptons de Dieu le bonheur, pourquoi n'accepterions-nous pas de lui aussi le malheur ? » Je disais, Dieu nous donne beaucoup de choses différentes. Il nous donne déjà ce dont nous avons besoin. Jésus dit à ses disciples en Matthieu 6, « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, mais votre Père qui est au ciel les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux ?» Et Dieu habille aussi l'herbe qui est dans les champs aujourd'hui et qui sera jetée au feu. Ne vous habillera-t-il pas, à bien plus forte raison, vous-même? Votre Père, qui est aux cieux, sait que vous en avez besoin. Jésus promet que Dieu s'occupe de nous jour après jour. Et il promet même qu'il le fait pour les bons, comme les méchants, Michaël nous l'a rappelé, pour toute son humanité. Voilà une chose que Dieu apporte. Une autre chose moins agréable que Dieu nous donne, c'est la correction. Dans l'Épître aux Hébreux, il est écrit « Supportez les souffrances par lesquelles Dieu vous avertit, il vous traite en effet comme ses enfants. Existe-t-il un enfant que son père ne corrige pas ?» Nos pères nous corrigeaient pour peu de temps, comme ils le jugeaient bon, mais Dieu nous corrige pour notre bien, afin que nous ayons part à sa sainteté. des choses agréables, des choses moins agréables à recevoir. On a encore parlé beaucoup. Dieu donne vraiment beaucoup de choses. Et je pensais à cette déclaration de Jésus qui dit « Je vous le déclare, c'est la vérité. Si quelqu'un quitte sa maison, ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants, ses champs, à cause de moi et de la bonne nouvelle, il recevra 100 fois plus. Dès maintenant, dans ce monde, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des champs, avec des persécutions aussi. Et dans le monde à venir, il recevra la vie éternelle. » Wow. Tant de choses, parfois agréables, parfois moins. Peut-être la chose la plus importante que Dieu nous donne, c'est le salut. La possibilité d'être réconcilié avec lui, malgré notre éloignement, malgré le fait que nous en fassions qu'à notre tête. On connaît ce verset par cœur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que toute personne qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il nous donne son amour et il le montre de façon matérielle par la venue de Jésus. Malgré la rébellion du péché qui mène notre monde dans un état pas possible, si on ouvre le journal, on le voit. Cet état pas possible. Le préfet hier nous disait qu'il évitait d'ouvrir le journal, que ce n'était pas forcément la meilleure chose à faire. Inégalité, conflit, souffrance. Dieu est venu pour réconcilier le monde avec lui, en Jésus-Christ. Comment s'exprime la bonté de Dieu? La Bible nous présente Dieu comme un père. Il sait ce qui est bon pour ses enfants, la nourriture, l'amour, le cadre avec des limites, c'est cela qu'il nous donne. Ce n'est pas toujours agréable sur le moment, mais c'est toujours pour grandir, pour nous faire progresser avec lui. Et ça, c'est résumé dans cette parole de Paul qui écrit aux Romains. Nous savons que toute chose contribue au bien de ceux et celles qui aiment Dieu et qu'il a appelé selon son projet. Ce verset, il n'y a pas de dire que tout se passera bien si on est chrétien, mais que tout contribue à notre bien. Tout nous amène vers le bien que Dieu veut pour nous. Et Paul continue, car Dieu les a choisis d'avance. Il a aussi décidé d'avance de les rendre semblables à son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné d'un grand nombre de frères et sœurs. Ceux et celles pour qui Dieu a pris d'avance cette décision, il les a aussi appelés. Ceux et celles qu'il a appelés, il les a aussi rendus justes. Ceux et celles qu'il a rendus justes, il leur a aussi donné part à sa gloire. Tout ce que fait Dieu, tout ce qu'il nous donne, va dans le sens de son projet, nous faire progresser jusqu'à sa gloire. Qu'est-ce que la bonté de Dieu ? Dire que Dieu est bon, ce n'est pas un constat, c'est une déclaration de foi. C'est dire que nous croyons que Dieu est bon. On ne juge pas de la bonté de Dieu, on reçoit ce qui vient de Dieu comme étant bon. Voilà pour la première question. Pourquoi le bon ? C'est la deuxième question. Pourquoi louer Dieu ? Je ne sais pas vous, mais je ne passe pas mon temps à remercier mon Père de ce qu'il m'a apporté. Peut-être je devrais. En même temps, je n'apporte pas non plus ça de la part de mon Fils qui vienne me remercier en permanence. Je trouve normal de m'occuper de lui. C'est mon rôle. Heureusement, il y a quand même une fois par an la fête des Pères. Ça permet quand même de faire un point là-dessus. Pourquoi louer Dieu ? Parce que Dieu a voulu un peuple pour le louer. Il a choisi, mis à part des personnes pour cela. On le voit dès la naissance du peuple d'Israël. Le Seigneur dit à Moïse pour au moment où il doit aller délivrer son peuple, va trouver le Pharaon, tu te tiendras devant lui sur la rive du Nil et tu déclareras au roi, le Seigneur, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé te dire, laisse partir mon peuple pour qu'il puisse me rendre un culte dans le désert. Le peuple de Dieu avait pour but de louer Dieu. C'est son rôle. Et ça n'a pas changé avec la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Quand Jésus est rentré en Jérusalem et que tout le monde criait « Gloire à Dieu !» et que les pharisiens qui trouvaient que ça faisait un peu désordre et qui n'étaient pas super fans disaient « Chut, fais taire tes disciples !» Jésus a répondu « Je vous déclare, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Il est nécessaire que la création retentisse de la gloire de Dieu, que la création loue Dieu. Et c'est à ça que sert le peuple de Dieu. Louer Dieu. Dieu a voulu un peuple pour le louer. Oula. Ça peut sembler prétentieux. Est-ce que Dieu a un problème de confiance en lui, qu'il ait besoin qu'on chante ses louanges, ou qu'il ait besoin d'un problème d'ego pour créer des humains qui le feront? Dieu n'est pas un homme, et je n'aurais pas la prétention d'essayer de lui faire une psychothérapie sauvage. En tout cas, pas en essayant de le faire rentrer dans les cases humaines. En préparant cette prédication, j'ai pensé à un film. Je ne sais pas si vous le connaissez. Voilà, les jeunes aussi le connaissent, je suis rassuré. En tout cas, moi, j'ai fait mon travail, je l'ai montré à mes enfants pour que ça passe de génération en génération. Rasta Rocket, c'est l'histoire de la création de la première équipe de bobsleigh de la Jamaïque. C'est aussi l'histoire d'un projet fou, celui d'Irving Pritzker, un type qui était persuadé que les Jamaïcains feraient de très bons athlètes, des champions dans ce sport qui est le bobsleigh. Tout le monde le prenait pour un fou. Mais il monte une équipe pour l'emmener aux Jeux Olympiques en 1988 à Calgary. Il va réussir à le faire et l'équipe obtiendra un succès d'estime. Dans cette aventure, les rôles sont clairs. L'entraîneur n'est pas là pour sa propre gloire. Il croit en son projet, celui de montrer la capacité des Jamaïcains en bobsleigh et de les mettre ainsi dans la lumière. Les rôles sont clairs. Il est celui qui sait, qui connaît le sport, qui pourra l'expliquer. Si les quatre athlètes veulent s'en sortir tout seuls, ils n'y arriveront pas. Ils ont besoin de lui. Il a la connaissance. Il est quelque part au-dessus d'eux. Et en même temps, il est là, l'équipe est là pour courir et montrer au monde son talent, leur talent à eux. Ça m'a fait penser à cette relation de Dieu avec l'homme. Il se révèle pour montrer que l'homme s'accomplit lorsqu'il se sait créature. Nous nous accomplissons lorsque nous comprenons que nous sommes des créatures, créatures d'un Dieu, et que nous pouvons être en relation avec lui, qu'il se réconcilie avec nous. Et nous pouvons le saisir lorsque nous nous tenons dans sa présence et que nous le louons. Je ne suis pas un grand philosophe, moi j'ai plutôt fait des études scientifiques. Mais j'ai cru saisir qu'une différence entre l'homme et l'animal, c'est la conscience. L'homme a conscience de qui il est. Et je crois que ça fait partie de sa conscience que de se savoir créer, connaître son créateur, pouvoir être en sa présence, reconnaître sa grandeur, chanter ses louanges. Et de fait, il y a de la joie à chanter ses louanges. Nous l'avons vécu tout à l'heure, quand nous avons chanté ensemble, cette joie était présente. Et la Bible témoigne aussi de cette joie. Elle contient un livre entier de chants de louange, le livre des psaumes dont nous en avons lu un exemple. il y a de la joie à se savoir aimé et pouvoir y répondre. Pourquoi louer Dieu, donc ? C'est ce que Dieu a voulu pour sa création. Que tout soit à sa place et qu'il soit reconnu comme créateur. Et que toute la création puisse tirer sa joie de cette reconnaissance, de se savoir à sa place et d'être en relation avec son créateur. Dans ce monde, nous sommes son peuple, celui qui s'est choisi pour cela. Il nous ouvre les portes à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Le louer, c'est notre rôle, notre appel. Alors, jouons notre rôle et réjouissons-nous. Vous avez promis trois questions. La troisième, c'est qui est concerné par l'appel ? Je le confesse, je n'ai pas discuté avec l'équipe projet de ces réjouissances de 40 ans pour savoir pourquoi ils ont choisi ce verset, le verset 5 du psaume 100. Mais je crois que la notion de génération en génération était importante. Ça se voit. Parce qu'une église, c'est un lieu où plusieurs générations se succèdent. Et nous avons l'occasion de le voir. Plusieurs représentants sont venus des générations passées de l'Église. Nous les avons vus, ils sont parmi nous. Nous nous réjouissons de leur présence. Je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression que quand on imagine la transmission entre les générations, on pense que c'est quand une génération part qu'il faut trouver quelqu'un pour la remplacer. Il faut une nouvelle génération pour la remplacer. Mais quand je médite la Bible, je n'ai pas l'impression que ce soit ça. La transmission de génération en génération ne se fait pas quand une génération part, elle se fait quand une nouvelle génération arrive. Connaissez-vous ces deux hommes ? Il y en a qui aimeraient. À droite, c'est Aurélien Rougerie, capitaine emblématique de l'équipe de rugby de Clermont. Et en 2017, il a 37 ans, il reste un joueur exceptionnel, déterminant sur le terrain, leader dans le vestiaire. Et là, sur la photo, il est avec Damien Penaud, un jeune de 20 ans, qui est en train d'exploser, de se révéler aux yeux de tout le monde. Il est bourré de talent. Et en fin de saison, au moment où les phases finales arrivent, Aurélien va voir son entraîneur pour lui dire que c'est Damien qu'il faut mettre en titulaire et qu'il faut que lui soit remplaçant. Son style de jeu, son dynamisme, sa folie, c'est ça qu'il faut à l'équipe. Et il n'aura pas tort, puisque Clermont gagne la finale du championnat de France cette année-là, grâce entre autres à une percée déterminante de Damien Penaud. La transmission de génération en génération, ce n'est pas quand une génération part, c'est quand une nouvelle génération arrive. Il ne s'agit pas de faire du jeunisme, d'évacuer tout ce qui a fait ses preuves par principe et sans discernement, mais rendre gloire à Dieu, c'est aussi faire de la place aux autres générations. Et je dirais même faire de la place aux autres en général. Et j'avais à cœur de le partager parce que je crois que c'est un moyen de nous souvenir que nous ne sommes pas propriétaires de cette église. J'ai beau en être le pasteur, ce n'est pas mon église, pas plus qu'elle n'est celle de Samuel, Dimitri, Neil, Joël ou John. Elle n'est pas non plus l'église de ses membres, en fût-ils membres depuis 40 ans. Elle est l'église de l'Éternel. C'est lui qui nous a fait. Nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. C'est lui qui la constitue. en y ajoutant ceux qu'il a choisis et qu'il sauve. Et nous devons les accueillir, accueillir ceux que le Seigneur ajoute à son Église. Et faire de la place aux autres, c'est changer. Car la génération actuelle ne loue pas Dieu comme on le faisait en 1983. Et encore moins comme on le faisait en 1923, ou à la Réforme, ou au 1er siècle. Si Dieu reste le même, le monde change. Les besoins de nos contemporains changent, leurs aspirations changent, le moyen de les atteindre change. Et les croyants aussi changent. Ils font face à de nouvelles tentations, à de nouveaux défis. Ils règlent aussi d'anciens problèmes, heureusement. Le monde change. L'Église, de génération en génération, doit changer. Et même quand tout ne se passe comme prévu, même si nous connaissons des conflits, des échecs, des fins, préparant cette prédication, je me suis souvenu d'un échange que j'ai eu avec John lorsqu'il est parti, après le temps qu'il a passé à Issoir. Et je regrettais le départ de John, que tout ce travail n'aboutisse pas à quelque chose qui reste, à une église qui puisse rester. Et John m'a dit, Dieu travaillait avant nous à Issoir, il travaillera après nous. Et là, la bonté de Dieu et sa fidélité de génération en génération. Pas dans ce qui reste, pas dans ce que nous voyons, mais dans le fait qu'il conduit toutes choses. Et qu'il les conduit, nous dit la Bible, pour que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Avant de conclure, j'aimerais lancer une invitation. Une invitation à faire partie de la prochaine génération. Le psaume lance cette invitation. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre. Et ça n'a pas changé. Paul écrit à Timothée, Dieu veut que tous les humains soient sauvés et qu'ils parviennent à connaître la vérité. Si vous ne faites pas partie de ce peuple qui loue l'Éternel, le Dieu créateur de toutes choses, celui qui veut être votre sauveur, sachez-le, vous êtes attendu. Et si vous voulez en faire partie, n'hésitez pas à venir parler avec moi ou avec Michael, un des anciens pasteurs de l'Église. Vous avez le choix, nous n'en manquons pas aujourd'hui, ou simplement un membre de cette communauté. Il y a une place pour toi dans ce concert de louanges, dans ce concert de ceux qui déclarent avec foi que Dieu est bon, ce concert appelé à se poursuivre comme la fidélité de l'Éternel de génération en génération. Pour conclure, j'aimerais que nous puissions ensemble mettre en application cet appel à la louange. Et vous louer encore une fois. J'invite les musiciens à revenir pour reprendre un des chants que nous avons chantés.